finalement, c'est un rite de passage, ah oui. Parce qu'on paraît devant ses pères.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Je ferai de la peine à beaucoup de collègues, peut-être, ou peut-être les réjouirai-je, en confessant que je n'ai pas le moindre titre d'arabe, même pas ce qui correspondrait à un certificat d'études. Je l'ai toujours entendu parler autour de moi. Bien sûr, je ne l'ai pas apprise comme un universitaire.
Vous voici conviés aujourd'hui dans le grand amphithéâtre du Collège de France auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux de nos recherches en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. N'est-il pas difficile, voire impossible, de se pencher sur l'islam avec les précautions mais aussi les exigences de l'histoire? Comment rendre compte d'une matière aussi vivante, brûlante, aussi souffrante? C'est l'une des premières questions que soulève Jacques Berck, titulaire de la chaire d'histoire sociale de l'islam contemporain entre 1956 et 1981. Le grand orientaliste, très attaché à sa vie gémellaire, mi-partie d'Orient, mi-partie d'Occident, s'explique ainsi au micro de Bernard Pivot. Dans l'Algérie où je suis né, la latinité et l'arabisme, au fond, allaient l'une vers l'autre. Et bien entendu, un état final de synthèse était ce qui s'imposait à moi en tant qu'enfant. Les tensions que je ressentais autour de moi constituaient pour moi une menace, et j'ai cherché au fond toute ma vie, non pas à l'éluder, mais à l'affronter. De là cet itinéraire où les occasions, les moments de ma vie n'ont été que des prises de vue sur les problèmes que je traversais. Ces hasards ont fait de ma vie une vie bisectrice entre l'islam et la Méditerranée. Au printemps 1956, Jacques Berck apprend sa nomination définitive au Collège de France. C'est Fernand Braudel qui lui annonce en premier la bonne nouvelle. Son avenir très incertain depuis qu'il avait quitté l'administration prenait forme, comme il l'écrit dans ses mémoires. Dans les mois qui avaient suivi sa thèse sur les sexes Sawa, issus de ses travaux dans l'Atlas, il avait été également élu à la 6e section de l'École des hautes études, où le souvenir de Marc Bloch et l'autorité de Lucien Febvre lui avaient valu la quasi-totalité des suffrages. Passé sa première réaction de terreur, sa connaissance engagée du Maghreb, complétée par une fiévreuse expérience de l'Orient, vont lui être très précieuses au Collège de France. Dans ses mémoires, il dit sa dette à l'Égypte et souligne l'évolution de ses positions politiques, et je le cite. « Jusque-là, mon intérêt pour les Arabes avait contourné leur nationalisme. L'Égypte m'a inspiré une vision plus juste. Mes étudiants d'un côté, le nassérisme de l'autre, m'ont fait comprendre qu'aucune construction novatrice, dans ces pays comme dans d'autres, ne peut, ni en droit, ni en fait, se passer d'un franchissement de ce seuil politique et existentiel, l'indépendance intégrale. Nos relations avec le monde arabe allaient si mal en vérité que lorsque ma leçon d'ouverture au Collège de France, début décembre 1956, je proclamais la survie de la chose franco-arabe, beaucoup me prirent pour un fou optimiste. Plus d'un quart de siècle après cette annonce, Albert Ourani a su rappeler la singularité d'un défi qui venait juste après l'expédition de Suez. C'est Léon Bonafé qui prête sa voix à Jacques Berck aujourd'hui, et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 1er décembre 1956.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, il y a 20 ans, Marc Bloch accueillait aux annales une dizaine de pages inspirées à un jeune chercheur par les campagnes du Nord marocain. C'est ainsi que j'entrais dans la maison de Lucien Febvre. J'y découvris l'histoire, conçue comme le plus chaud des monstres, la plus exigeante des ambitions de l'esprit. D'autres souvenirs, plus lointains encore et bien chers, m'attachent à l'un d'entre vous, historien lui aussi. Débutant alors à Alger, il se laissait conduire par l'appel conjugué des archives et des paysages à sa fastueuse reconstitution du XVIe siècle méditerranéen. Une longue route m'était promise aux côtés de Fernand Braudel. Très tôt, sur la rive africaine où s'écoula ma jeunesse, j'avais entendu de mon père, lui-même analyste dévoué des sociétés musulmanes, les grands noms de William Marcet et de Louis Massignon. Je devais avoir la chance de trouver ici Gaston Witte. Bien que ces maîtres de l'orientalisme aient témoigné quelques faveurs à mes premiers travaux, je dois dire que je serais resté là-bas, fidèle à des tâches d'action, si la mort de mon illustre devancier ne m'avait soudain, bien au-delà de mes mérites et de mes ambitions, signalé à votre indulgent accueil. Longtemps avant moi, Robert Montagne avait scruté la vie des républiques de l'Atlas. Il y a, sans dogmatisme, mais avec une rigueur presque géométrique, décelé le jeu de ces grandes lois qui éclairent, sans le défigurer, le comportement des hommes. Il arrivait au Maroc de l'aéronaval. J'ai souvent évoqué et ressenti par l'imagination ce que put être son émoi lorsqu'il aperçut d'en haut, blottis sous leurs noyers et leurs neiges, ces libres communes auxquelles il devait consacrer son maître-livre. Que de fois par la suite, dans les ruelles de Fès, sur telle colline d'Alger, dans une bourgade pluvieuse des Djebala, nous avons échangé les paroles de la joie ou de l'inquiétude. Inquiétude devant des périls grandissants, joie de chercher, sous la réalité touffue, quelques faits jusque-là obscurs, quelque enchaînement nouveau. Car la première leçon de Robert Montagne était la découverte. Il avait de la vie un sens exigeant et subtil. Lui qui avait si délicatement révélé l'existence archaïque des Berbères d'alors, il sut élargir ses curiosités et les nôtres à l'ampleur du monde islamique et méditerranéen. C'est ainsi qu'il était parti pour Damas. Je partis à mon tour pour l'Égypte, non sans me redire sa métaphore familière, celle de larges ondes de pensée et de sentiments qui, du golfe Persique à l'Atlantique, vont et viennent et déferlent sur les systèmes les plus clos. Notre monde n'est plus cantonal. Il ne récompense plus guère les vertus du jardinier. Que ne l'avons-nous cru assez tôt ? Mais le Maghreb dévore les idées et les hommes. Et voici que m'échoit la tâche de continuer une œuvre magistrale. L'honneur est grand, le risque aussi. N'est-il pas difficile, voire impossible, de se pencher sur l'islam d'aujourd'hui avec les précautions, mais aussi les exigences de l'histoire ? En une matière aussi vivante, aussi brûlante, aussi souffrante, les moyens habituels de la science ont leur valeur, immense, mais qui ne saurait suffire. Il faut vivre au contact de ces hommes, rechercher leur familiarité, presque une connivence. Est-ce possible sans que s'en mêle la passion ? Dans d'autres disciplines, en des secteurs plus calmes, la part de l'échange personnel peut être sévèrement refoulée. Non pas dans ma tentative. Mon sujet exige de qui veut l'étreindre non seulement la rançon habituelle de l'étude, longues années de lecture poudreuse, enquêtes prolongées sur le terrain, mais un pacte de sympathie, d'engagement. Ce pacte, il y a longtemps que, fils, et j'oserais dire citoyen du Maghreb, je l'ai souscrit. Plus récemment, hôte des Arabes en Orient même, j'ai senti que ma quête, plus que jamais participante, n'avait pas changé de place, et que je trouvais là, pour éloigner que je fusse de l'islam d'Occident, la même chaleur de vie à comprendre, c'est-à-dire à partager. Si je me suis ainsi exposé au péril qu'encourt, sur le plan de la science, toute sympathie active, sachez que j'en ai toujours été et que j'en reste conscient. En vérité, c'est là le sujet essentiel que je voudrais traiter au seuil de ma carrière au Collège de France, face à des responsabilités déjà anciennes, mais qui, brusquement, pèsent plus lourd à mes épaules. Aux voyageurs, même prestigieux, à l'enquêteur chevronné mais pressé, à tous ceux qui, voulant comprendre, vont d'un pas trop hâtif ou d'un cœur qui se refuse, comment imaginer que l'islam se livre ? Sur ces énormes pays, du Maroc à l'Arabie, et que d'autres peuples musulmans prolongent en chaîne jusqu'au Célèbre, sur ces pays et ces problèmes, en chaîne eux aussi, soyez sûrs que ne brille pas une lumière athénienne qui exalte les reliefs et purifie le contour. La personnalité de ce monde s'avère peu communicable. Chez quiconque le fréquente, il éveille les justes images de la caverne ou du dédale. Des arcanes de son droit aux complications de ses douanes, il oppose de tous côtés la même difficulté d'approche. Il se défend ainsi contre l'extérieur, l'aberrant. Évasif, menaçant ou charmeur, il se dérobe tour à tour par le mystère, l'injure ou la séduction. Il dispute son accès véritable, cache sa vérité. Beaucoup s'arrêtent à ce premier barrage, qu'il reste pris aux caresses du pittoresque, aux pièges de l'équivoque, à la combativité du geste. La recherche, elle, doit aller plus loin. La tradition de l'orientalisme rejoignait celle de l'humanisme dans des arrière-plans de renaissance, de mécénat royal, d'aventures sensuelles. Que l'on pense aux mille et une nuits, autrement chaleureuses, fût-ce sous la plume de Galland, que les traductions de l'Antique, plus généreuses dans l'imaginaire, plus suggestives d'horizons fantasques. Mais ce climat, baroque et charnel, enveloppe des réalités prosaïques. Au Caire, mieux encore, à Sidon, non loin des ruines du château de la mer ou dans les souks d'Alep, la nation française travaille, accumule. De ces consuls aventureux à ces utopistes traceurs de voies ferrées, à ces voyageurs émus, un Lamartine, un Barès, elle édifie en Orient une œuvre dont les Champollion, les Sassi, les Renan érigent la contrepartie scientifique. À cette époque, les Arabes négligent leur propre passé, balbutient leur noble langue. L'orientalisme contemporain est né de cette vacance. L'exploration, la résurrection de tant de richesses morales, fut la chance du chrétien érudit, tout comme le chrétien de la banque vivifiait concurremment les espaces incultes et garnissait les entrepôts. Le temps a marché. Dans l'éveil général des peuples, l'esprit revendique sa part. Il n'est plus possible aujourd'hui, s'il le fut jamais, d'étudier quoi que ce soit de la langue ou de la civilisation arabe sans le concours des Arabes. De l'histoire littéraire à l'édition de textes, nos collègues orientaux mettent en œuvre leurs facilités propres, qui sont immenses. La qualité de leurs publications s'affirme de jour en jour. Ce qui est vrai de l'étude l'est tout autant de la vie dans ses différents domaines. Il faut nous rendre de plus en plus attentifs et sensibles à l'envers arabe des choses. L'envers des choses, ce sera, aux yeux de beaucoup, sans plus, la vérité à l'envers. Donc, pour un temps au moins, paradoxe, ou même scandale. Cependant, chez le partenaire, ce renversement des notions reçues ne provoquera-t-il pas l'outrance, le défi ? Oui, Sans doute. Notre science des sociétés musulmanes traverse aujourd'hui une phase contentieuse. Il ne pouvait en aller autrement. Nous voici à l'heure des constats moroses, des reniements amers. Ce n'est pas que tous nos savants aient péché par parti pris. La plupart d'entre eux furent probes. La culture qui les soutenait a inventé la critique, l'histoire, l'objectivité. Mais leur enquête participait fatalement des tendances du moment et du milieu. Question d'angle de vue, de mesure, d'option. Voyez, par exemple, la tribu arabe, le bédouinisme en général. L'orientalisme les aborde à la faveur de trois grandes poussées politiques. La phase de notre bureau arabe en Algérie, jusque vers 1870, la phase de la révolte dans le désert, triomphe des agents britanniques dans le Proche-Orient, l'expansion pétrolière contemporaine. Je veux bien que tout cela soit complexe parce qu'humain, que rien dans cet ordre de choses se puisse ramener au linéaire, que l'exploration scrupuleuse d'une part, le déchiffrement érudit de l'autre est cautionné et jusqu'à un certain point validé, dans tous les cas dépassé l'action pratique. Il n'en reste pas moins que celle-ci nous propose trois types différents d'arabes, appropriés merveilleusement à ce qu'elle attendait d'eux. Trois types plus proches, sans doute, de leur peintre que du modèle. Dans les écrits français, règne le seigneur cantonal. Il dresse, du côté des siens, sa face de patriarche. D'une autre, celle d'un administrateur complaisant, encore que rapace. Cette figure, héritée de contacts séculaires, peu à peu désertée par la vie et même par l'efficacité, tend à finir dans l'extrémisme caricatural de ce que j'appellerais l'indigène pour affaire indigène. Image néfaste, on ne le sait que trop. Mais lui préféreriez-vous celle de l'aventurier évasif que chanta Lawrence, ou celle, plus moderne, de l'affairiste drapé, cher aux grandes compagnies. Tout ce qui, chez les Arabes, a pris conscience, récuse également ces trois images. Du même coup, devient suspecte l'authenticité de l'exploration, des contacts pris, même des textes. À notre tour, nous récusons volontiers ces gageurs, non pas les éléments objectifs dont elles procèdent plus ou moins. On a trop généreusement fait endosser au Beni Hilal en Afrique du Nord la responsabilité de destruction et de décadence qui déborde pourtant, au XIVe siècle, le cadre de leurs exploits, puisqu'elles s'étendent à l'Europe occidentale. Mais je ne contesterai pour autant ni les disgrâces de certains siècles obscurs, ni le témoignage des textes. Notre critique, qui se veut bilatérale, a devant elle un délicat travail à soutenir de réglage, de mise en proportion. Encore ne s'agit-il, en l'espèce, que d'une discussion d'érudits, fâcheusement propice, il est vrai, au jugement péremptoire et à l'argumentation polémique. Il n'en est pas de même d'autres questions brûlantes, de toute autre portée, comme celle des minorités du Proche-Orient ou des Berbères du Maghreb. Toutes se ramènent au conflit de politique et plus encore d'optique entre l'islam et l'Occident. L'arabisme, répandu victorieusement pendant le haut Moyen-Âge sur la face est et sud de la Méditerranée, a submergé, non pas aboli, les systèmes antérieurs, dont beaucoup subsistent aujourd'hui encore à des degrés divers de masse ou de potentiel, ayant bravé 3 ou 4 siècles de domination ottomane. Certains, comme les Druzes, ont su maintenir une personnalité initiatique en deçà des frontières de l'islam, au-delà desquelles certains autres, comme les Maronites, allaient chercher leur caution. Forcément, de telles attitudes à l'égard de l'externe, de la nouveauté, de l'événement en général, s'écartent de l'uniforme. Hier, lors de l'expansion européenne au Levant comme au Maghreb, notre politique et simultanément notre recherche n'eurent garde de négliger de telles originalités. trop souvent, elles ont eu tendance à les outrer. Le fameux Dahir de 1930, qui soustrayait les litiges des Berbères à la justice canonique, était le type achevé de ces outrances. Le monde musulman, du Maroc à l'Insulinde, lui fit l'accueil que l'on pouvait prévoir. Il serait trop facile aujourd'hui de railler ses fautes. Une meilleure analyse des positions musulmanes à l'égard du berbère, de l'alaouite, du druze, du kurde, du bédouin, c'est-à-dire à l'égard de franchises locales plus ou moins accrochées à l'histoire, une meilleure analyse du comportement de ces minoritaires ou de ces irréguliers à l'égard de l'islam et d'eux-mêmes, si j'ose dire, aurait épargné des interprétations fallacieuses. Voilà donc un cas où la thèse européenne aurait eu beaucoup à prendre de l'antithèse arabe. Est-ce à dire qu'il nous faut, sans réserve, nous rallier à celle-ci, proclamer, comme tels publicistes orientaux, qu'il n'y a pas de berbères, que les Nocéiris sont une invention du mandat, etc. C'est aller trop vite en besogne. Nous aurons à restaurer une objectivité, même compromettante, en la dégageant des excès rivaux qui la troublent. La vérité sur l'Orient ne s'offre à nous qu'au travers des images, des émotions et des incertitudes d'une joute. Si le risque est grave pour l'impassibilité, la chance grandit peut-être ainsi de surprendre être, chose, époque, dans leur violence passionnelle, de les saisir dans la transe qui les met à nu. Les pays arabes naissent à leur histoire moderne après la Première Guerre mondiale, voire après la Seconde. Âge de tragique révision. L'arabisme, à beaucoup d'égards, est remis en cause des autres et de soi-même. S'y mêle la rancœur contre l'Occident, mais aussi son attirance tenace. On n'est plus vraiment arabe que contre un monde d'injustice et d'appel, c'est-à-dire en fonction de ce monde. L'Orient doit-il vraiment ne plus nous apparaître que comme réaction ? Ne plus être à ses yeux même que contre nous, c'est-à-dire par rapport à nous? Il y aurait là, pour lui comme pour nous, risque mortel. Certes, nous ne le réduirons pas aux définitions grossières par le nationalisme, le panislamisme, le fanatisme, la xénophobie et autres appellations confortables. Mais il faut bien voir que chez lui, le réformisme des uns, le conservatisme des autres, la démarche même des penseurs, ne sont trop souvent que l'effet de positions prises à l'égard de l'Occident. Altérité, diraient nos philosophes. Or, se définir en fonction d'une mythologie tout en figures contrastées, tout en blanc et en noir, c'est laisser la passion l'emporter sur la justice et, chose plus néfaste encore, sur l'exactitude. La passion possède son langage, l'invective, ou tout au moins l'éloquence. Que d'éloquence ! Ce danger préoccupe beaucoup de nos amis orientaux. Leur pédagogie lutte contre ce qu'ils appellent le verbalisme, l'afs-iya. Un nombre impressionnant de centres, de chaires, de revues, propagent avec conviction, non sans excès parfois, le culte des chiffres et des sciences exactes. Voyez par exemple l'Égypte et ses essais de recherche statistiques, biologiques, atomiques, etc. Significativement, elle tente de fonder, contre le règne du verbe, celui de la quantité. Peut-être parce que pour elle, la culture occidentale ressortit avant tout à la quantité. Un tel débat va loin. Sous la gesticulation, sachons reconnaître le témoignage, ce mot cher à Louis Massignon, ce mot cher à tout l'Orient et que la pensée la plus laïque est forcée de respecter. Sous l'éloquence, il y a le verbe, avec ce qu'il peut s'y attacher de correspondance rituelle, d'autorité millénaire. Même si elle s'attache au positif, même si elle répudie l'émotion, l'analyse justifie ce primat linguistique par le fait que la langue arabe a été, pour ces hommes, le symbole par excellence et, encore aujourd'hui, le plus sûr gage de ralliement. C'est pourquoi le verbe se défend si bien. Il a son titre de noblesse, l'Antiquité, son outil prestigieux, l'arabe, langue d'ébène et d'or. Il a même ses techniques de l'âge industriel, la presse, la radiodiffusion, empruntées à autrui, mais efficacement utilisées contre les inventeurs. L'éloquence, plus fidèlement qu'ailleurs dans le monde, exprime ici l'individu et le groupe. Les mots, leur sonorité, leur puissance de message, leur magie de sentiment sont devenus pour l'Orient une véritable personnalité. Le risque serait de nous laisser prendre à la vigueur affective de ses attitudes, à cette personnalité lyrique et combative que l'Orient a revêtue, comme autrefois il se défendait par l'hiératisme du geste ou la solennité de l'habit. Car son être moderne se découvre et se réalise tardivement, péniblement, dans un monde déjà délimité, approprié et comme solidifié. Cette fois-ci, Caliban ne se soulève pas contre un enchanteur aux grâces florentines, mais contre des situations acquises. En arrière-plan s'évite une tempête qu'aucun génie ne vient apaiser. C'est en vain qu'on invoquerait Ariel. Nulle révolte ne peut réussir maintenant si elle ne s'intègre à la civilisation machiniste, c'est-à-dire au règne des causalités impitoyables. Mais l'Orient ressent moins que nous cette morsure de l'objet, cette morsure de l'autrui, créatrice chez nous de l'attention, de l'objectivité, de tant d'autres dispositions ouvrières. Aussi bien, n'est-ce pas que nous reconnaissons dans l'objet notre ouvrage, dans la nature une maîtresse attentive à nous servir ? Si l'oriental, héréditairement, et sans doute pour des raisons de même ordre, donne préséance au verbe sur l'univers, c'est qu'il manque souvent encore de techniques propres à lui soumettre cet univers. Et ces peuples, qui s'efforcent de secouer les décombres de leur passé et du nôtre, avec, parmi ces décombres, hélas, des légitimités, s'y meurtrissent. La tension les déforme. Leurs structures deviennent fuyantes, leur détermination ambiguë. En fait, ces structures sont indéchiffrables si on les isole de leur contexte historique et de toute une psychologie sociale. La croissance démographique, la surcharge du terroir, le sous-emploi, la baisse du produit agricole brut par habitant semblent caractériser également l'Algérie et l'Égypte. Mais qui dira que ces faits éclatants aient le même sens ici et là ? La grande domanialité se retrouve, encore qu'à des degrés divers, en Égypte et en Irak. Elle aboutit ici à la tenure par grande masse, là à l'infiniment petit de la propriété privée. Évolution historique, maturité juridique inégale de part et d'autre, certes. Mais aussi divergence des mœurs ou jeu de facteurs qui restent à découvrir. Cette variété tient à des nuances parfois subtiles dans l'attitude des peuples. Car les déterminismes structuraux font toujours place à d'autres éléments, culture, sentiments, croyances. Le tout brassé par une profonde révolution morale, large ébullition, qui met en cause toutes les données à la fois, aussi bien collectives qu'individuelles. Ainsi, chez les Arabes, les thèmes du féodalisme et de l'impérialisme font corps avec un troisième, celui de la compression, de la frustration, Hirman, et cela dans tous les domaines, aussi bien sexuel qu'alimentaire ou moral. Le troisième terme compose, avec les deux premiers, une trinité d'émotions, de rancœur, d'aspiration, dont la violence nous frappe. Or, les institutions internationales, dans ces pays, combattent bien un sinistre trio, celui de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie. Nul doute qu'aux yeux des Arabes, ce ne soit là qu'un constat insuffisant. Et leurs écrivains, qui accolent les trois termes de colonialisme, de féodalisme et de frustration, nous invitent à chercher, plus en profondeur, les données communes d'une révolte aussi bien charnelle que politique et sociale.
France Culture et le Collège de France vous proposent une lecture de la leçon inaugurale de Jacques Berck.
Je passais, il y a quelques mois, le long de l'Euphrate, par la vieille cité de Hitt. Juste en aval, le fleuve pénètre dans le bas Irak. Non loin commencent à s'étaler ces déversoirs marécageux. 40 saints illustrent la ville. On compte deux merveilles. Ils ont sauvé, pendant la guerre de 48 contre Israël, un général qui les invoquait sous la mitraille. Ils ont tout récemment fait crever le cheval d'un gouverneur qui les avait offensés malgré l'avertissement d'un songe. Le gouverneur était chiite et la ville sunnite, comme ses 40 saints. Voilà ce que narrait, dans un langage naïf, aux occlusives suintées, fertile en Akou et Makou, cet héritage araméen, un fort mince personnage de son état graisseur de camion. Je l'avais recueilli sur la piste avec son maître, riche commerçant d'une trentaine d'années, spécialisé dans le commerce des dattes de l'espèce dite Zodi, entre Alep et Bagdad. La conversation délaissa la géologie et prit bientôt un tour personnel. Mes deux passagers étaient restés célibataires. Chacun, à son niveau, reculait devant la dépense d'une dot. 500 dinars pour le notable, 100 ou 150 pour le manœuvre, soit, pour ce dernier, près d'une année de salaire. Aussi, les épouseurs sont-ils aussi réticents que les pères avides. Conséquence, sur l'Euphrate, fort loin en amont, à Deir ez-Zor, le mécontentement règne chez les filles. Il arrive même, dit-on, qu'elles élèvent des litiges contre les exigences paternelles en matière de dot. De même, sont à la mode les « mariages vers l'Est », menant la fiancée syrienne ou libanaise à de lointains foyers, irakiens, séoudiens, du golfe Persique, voire du Pakistan ou de l'insulinde. Ainsi triomphent au loin une éducation policée, des vertus domestiques, la grâce levantine et le français des bonnes sœurs. Mais la réciproque n'a pas lieu. Seules des syro-libanaises sont héroïnes de ces transplantations conjugales. Ces préférences subtiles tranchent curieusement sur les déterminismes observables dans ces mêmes sociétés et qui soumettent la courbe des mariages au rythme de l'année agricole et aux variations du prix du blé. Bref, notre commerçant aurait bien voulu épouser une fille de Deir ez-Zor. Mais il reculait devant la dépense. Il pestait, en connaisseur, contre une spéculation portant cette fois non sur les dattes, mais sur les filles, et se laissait aller à incriminer la règle islamique elle-même. Il enchaîna sur l'Iqta et l'Istimar, le féodalisme et l'impérialisme, pour conclure à l'expansion des Lumières. Le vaste remue-ménage d'idées qui s'instaurait entre mes interlocuteurs associait confusément la structure à l'existence, les causalités, vraies ou fausses, aux besoins du cœur et à l'expansion du geste. De quoi satisfaire nos sociologues ? Phénomène social total, en vérité. Mais comment eût-il pu en être autrement ? Et nous parlâmes aussi des gros poissons du fleuve, de ce mesgouf, exquis à consommer près d'un feu sur la berge dans la nuit de Bagdad. Une fois de plus, nous voilà devant la vie, devant une vie, qu'elle soit de tel individu ou de tel groupe. Elle oppose à nos prises une sorte de compacité. Par où la pénétrer ? Par où la saisir ? Même si nous conjuguons deux méthodes, l'analyse causale et la phénoménologie, ces êtres nous dérobent ce qui fait qu'ils sont vivants. Nous les connaissons mal dans leur masse, à plus forte raison dans leur mouvement. Monographie trop rare, contact rébarbatif, approche difficile ou suspecte, insuffisance de la documentation sur le passé et plus encore sur le présent. Devons-nous désespérer? Ce désespoir saisit tout historien du monde arabe. Récemment, l'orientaliste anglais H.A.R. Gibb le confessait, comme je suis tenté de le confesser devant vous. Et pourtant, dans ce corps à corps avec une réalité difficilement pénétrable, nous avons un allié. Cette réalité même, dès lors qu'elle s'exprime comme elle se sent. En Irak, en Égypte surtout, le roman arabe moderne vient à notre secours. Le genre surabonde. Sa valeur documentaire dépasse sa valeur littéraire. Il va plus loin, pour le moment, dans la description, sinon dans l'explication, et dans l'authenticité, sinon dans la sérénité, que n'importe quelle monographie. Si nous savons convenablement le lire, l'interpréter, le rectifier au besoin, c'est tout un monde qu'il va nous découvrir. Ce qui compte, ce qui vaut, est par-dessous. C'est ce flot de vitalité neuve et de neuve angoisse qui soulève les Arabes depuis une génération. Ce n'est point un hasard qu'il y a 25 ans environ, lors de la première expansion de la radio, se soit élevé d'Alep, du Caire, des champs où toute une génération devait se reconnaître. Leur style, peu accessible au goût européen, combinait tradition et nouveauté. Il imprimait à la vieille mélodie orientale l'inflexion des jeunes soucis. Un mot arabe définit leur incantation. C'est le hanin, douleur secrète, tendresse nostalgique, espoir enivré de lui-même. Un peuple entier, du lettré au fellah, du salon citadin à l'échoppe villageoise, vibre aujourd'hui même au chant d'Oum Kulsoum. Il s'exalte lorsqu'elle imprime à sa voix cette boha, cette soudaine meurtrissure qui interrompt la phrase et la prolonge en demi-teinte. Unanimité qui serait incompréhensible si elle ne révélait, mieux que toute autre chose, le syncrétisme mélancolique auquel, du plus intime d'elle-même, recourt l'âme arabe, soumise à de mortelles nécessités d'adaptation. La foi répond, plus profondément encore, au même genre de besoin. Elle se fait consolation, compensation, autant qu'elle est recherche de l'absolu ou fidélité au passé. C'est à elle que cette civilisation, aux prises avec une histoire trop faite, demande de la fraîcheur. Et aussi une revanche contre la sécheresse et les mécanismes auxquels elle réduit trop souvent notre propre civilisation. Ce second aspect de l'islam tend à l'emporter dans l'évolution contemporaine à mesure que s'aggrave le choc de l'Occident. D'où la force d'une religion dont Renan, il y a trois quarts de siècle, prédisait la décadence. Il parlait, il est vrai, du système traditionnel. Il ne prévoyait pas ces recours compensatoires où s'épand une vitalité meurtrie par ses expériences, effrayée de ses propres perspectives. C'est à juste titre que de telles revanches inquiètent le théologien d'Al-Azhar, car elles seront cherchées dans bien d'autres voies encore que celles de la piété. Pour autant, l'historien devra-t-il s'attacher à l'incommunicable, se laisser porter, par réaction contre le schématisme, à trop de sensibilité ? Qu'on se rassure, l'impressionnisme ne sera pas mon fort. Notre rôle est de comprendre. Seulement, l'analyse, pour être efficace, pour descendre assez profond, ne doit dissocier les faits ni de leur contexte d'émotion, ni du sens dont les colore l'expérience vécue. J'ai parlé jusqu'ici d'Orient arabe, de pays arabes en général. C'est à bon droit qu'on me reprocherait l'uniformité de la teinte et mon silence à l'égard de personnalités nationales, provinciales, locales, toutes si accusées. une saine réaction contre l'optique vicinale, chère à beaucoup d'honnêtes chercheurs, ne m'a-t-elle pas emporté trop loin ? S'il en était ainsi, la réalité aurait au fait de nous ramener aux délimitations. Elle commande, assurément, de sursoir à l'hypothèse générale en ce qui concerne la majeure partie du continent arabe, car il demeure encore au stade de l'exploration. Ainsi, ce Yémen, de culture en terrasse et d'archéologie fabuleuse, ainsi cette côte indienne ou persique, que tant de sollicitudes gardent des indiscrétions, même sociologiques. Nous ne savons pas grand-chose non plus des nomades ou des sédentaires du royaume séoudien, hors ce que veut bien nous en dire une littérature d'agents spéciaux. Au fond, de l'anti-atlas à l'Irak, notre connaissance n'a débordé que de peu l'ancien limès de Rome. Passons à l'Arabie d'Europe, je veux dire à l'ensemble syro-palestinien. Que de problèmes restent inexplorés. En voici quelques-uns seulement. Je les accroche, pour ainsi dire, par leur arête la plus vive, au niveau de cette sensibilité littéraire, tellement révélatrice des sociétés arabes. Dans ce Liban, promoteur de la Renaissance classique, on note, depuis une vingtaine d'années, toute une efflorescence de la poésie populaire. Il paraît, rien qu'à Beyrouth, 5 revues d'inspiration dialectale. À quels obscurs mécanismes d'équilibre le phénomène doit-il être attribué ? Pourquoi la montagne alaouite voisine, refermée sur ses particularités religieuses, jadis trop chère au mandat, aujourd'hui suspecte pour des raisons de même ordre au centralisme musulman, exhale-t-elle en ce moment une veine si forte de poésie littéraire ? Non loin, la cité damascène, altière championne d'arabisme, délicate gardienne de la langue, cultive dans son académie à la fois la connaissance et la nostalgie des grandes époques. L'un de ses musiciens vient de restituer, miracle archéologique, une vieille danse naturiste que les derviches d'Alep dansaient jadis pour demander la pluie. Mais pourquoi cette Castille du monde arabe contribue-t-elle si peu à l'essor du roman contemporain ? Que le genre trouve en Égypte, dans son terreau immémorial, dans sa transe moderne au dramatique soubresaut, un aliment privilégié. Cela se comprend. Et aussi que la poussée du dialecte y batte les portes du livre et conquiert déjà le dialogue dans l'écrit comme à la scène. Mais pourquoi cette même sève ethnologique, cette continuité millénaire, ne soutiennent-elles pas, au même titre, le développement des Coptes, alors que, non loin, s'avive l'histoire serrée et nerveuse des communautés du Liban ? Le problème, on s'en doute, ne se limite pas au champ littéraire. Je n'ai choisi ce dernier que parce qu'il est le plus révélateur, le plus étroitement lié à une crise de conscience et d'expression. Le domaine économique et social nous offrirait quantité d'autres exemples, tous individualisés et comme personnifiés sous des traits nationaux, provinciaux ou locaux. Et comme si c'était trop peu que tous ces particularismes, issus de la géographie ou de l'histoire, voici que l'individu, la secte, le parti, l'orthodoxe et le novateur, le conformiste et le révolutionnaire, viennent agir sur cette réalité complexe de toute leur folle variété d'actions et d'interprétations. De là, dans l'espace du Proche-Orient, toutes ces différences de comportement, ces ruptures de rythme. Des raisons générales, inhérentes à l'humain, mais d'autres plus particulières au caractère de l'Orient et de l'Occident arabe, font que l'enquête, même affranchie des servitudes anciennes et des risques qu'appelle la phase présente, achoppe à d'autres incertitudes. Lacunes dans l'enchaînement des causes, ambiguïté des faits, hostilité ou complicité du modèle, déficience ou possibles excès dans le culte de l'objectif, de quoi l'investigation n'est-elle pas menacée ? Pour embrasser ce tout chaleureux, pour en saisir à la fois les conditionnements, justiciables de l'analyse, et les valeurs d'existence, insaisissables par les moyens trop stricts, notre étude doit se faire multiforme. Non seulement ses angles de vue, mais ses méthodes devront varier, selon qu'elle s'attachera aux structures ou aux phénomènes. En gros, deux démarches complémentaires, si l'on veut, dont aucune ne pourra ni ne voudra s'affranchir de l'autre. Le progrès de notre connaissance réside justement dans les chances que nous aurons de restituer, par l'accumulation des faits et le va-et-vient de l'exégèse, ce mouvement global qu'est l'histoire d'une société. Cette histoire n'est pas autonome. L'être qui se découvre, quand nous cherchons à le saisir tout ensemble, comme fait, comme sentiment et comme volonté, se pose, à l'égard de l'Occident, de la culture moderne et même de la nature, selon des rapports très définis. Sa crise passionnée et parfois outrancière marque bien, comme l'a dit Tawfiq al-Hakim, le retour d'une âme, audat arru. Mais ce retour s'opère dans un cadre donné ou subi plutôt que construit. Il rencontre des configurations faites et non, comme nos révolutions, un monde à façonner et domestiquer. Si l'on appelle à la nature, il la trouve masquée par l'univers politique. Voilà peut-être pourquoi la poésie arabe contemporaine, mis à part deux ou trois grands émigrés, reste assez conventionnelle dans l'expression de la nature. L'inspiration que notre romantisme demandait à l'élémentaire, elle la puise dans des forces moins directes, plus élaborées. Jusqu'à présent, cette humanité se refuse à ce qu'on a nommé le parti pris des choses. Car des choses, l'histoire lui dispute et la saveur et la rigueur. Aussi perce, sous beaucoup de tentatives des Arabes, la nostalgie d'une réconciliation avec l'immédiat. Le désaveu d'un monde qui n'est pas tellement pour eux celui de l'aliéné que celui de l'intercepté. Dans leur système actuel, les rapports entre la nature, le travail, l'acquis du passé, les tâches de l'heure, ne se posent pas comme dans la phase nationale de l'histoire européenne. À des rapports différents répondent des mouvements d'un autre type. Ces pays ne peuvent encore concevoir, comme l'Occident, un développement aux patientes maturités, où la révolution même s'inscrive dans une logique aux belles courbes. Harassés par ce qu'un essayiste égyptien a nommé leur pesante histoire, ils seront tentés de chercher leur affirmation hors de la continuité, de la logique et peut-être même de l'histoire. Un tel effort diffère d'une autre, non seulement par l'âge, mais par le style. De là, bien des malentendus. L'un des partenaires renie un ordre pour lui mécanique, immoral. L'autre refuse d'accueillir l'arrivant. Il lui reproche en définitive de n'avoir pas payé le prix qu'il a payé lui-même, long mûrissement, soumission aux faits. Or, peut-on lutter contre des faits avec des signes, fussent-ils aussi augustes que celui de la liberté ? Oui, sans doute, dirais-je, dans la mesure où de tels signes finissent par prévaloir sur les faits les plus denses. Mais le combat sera dur. Chanceux, les équivoques fréquentes, la peine terrible. Et parfois, comme dans les Taziyats, ces mystères chiites qui célèbrent la passion d'Ali, il se pourra que l'acteur succombe, non sans avoir goûté l'amertume des abandons. Cependant, les choses commencent à changer. Dans plusieurs de ces pays, la saisie du réel s'affermit. L'homme ose vouloir façonner son destin. L'industrialisation, d'une part, les progrès de l'éducation, d'autre part, ouvrent des perspectives salutaires. Corrélativement, au regret de certains, courtiers, politiciens, esthètes, l'objectivité tente de prévaloir sur l'éloquence. Mais cette victoire de l'outil et du fait porte la marque des conditions qui la rendent possible. Elle résulte du choc et de l'emprise de la civilisation industrielle. D'où sa coloration politique, d'où sa vibration affective. Dans ce retour à l'objet, l'objet se retrouve amer. De telles vicissitudes, fruits de l'histoire, se modifieront dans l'histoire. Une histoire qui aujourd'hui s'accélère et de plus en plus se veut. Oui, dans ces sociétés et ces mentalités, les rapports entre le monde extérieur, le cœur de l'homme et l'action ne sont pas encore du même type que dans les nôtres. Elles s'y ordonnent encore selon un ordre dissymétrique du nôtre. Mais ces différences s'effacent. Elles tomberont définitivement quand les mêmes facteurs auront joué ici et là, pourvu que la passion des hommes les laisse librement jouer. À ce point de l'exploration, une inquiétude nous saisit. Cet Orient est animé d'un vouloir vivre furieux qui brise tous les barrages, ceux de la politique externe ou interne, de l'ordre social, des traditions, de la foi. La femme contre l'homme, l'adolescent contre l'adulte, l'étudiant contre le maître, le dépendant contre le prépondérant. Tous veulent se dresser contre tout. L'élan est contrarié par d'opiniâtres résistances. Il peut être dévié, voire dénaturé par l'erreur ou la manœuvre. On peut l'abuser, l'exploiter. Mais enfin, sa force et sa direction ne laissent aucun doute, non plus que ce qu'il porte de création à terme. Ceci m'amène au plus délicat de mon interrogation. Le flot heurte bien des digues. Il ébranle bien des intérêts, bien des légitimités. La recherche, si sereine qu'elle se veuille, s'accomplit dans le tumulte. Le chercheur est un homme d'un certain pays. Le négliger serait faute, le cacher, mensonge. Le moi réapparaît ici, ou plutôt le nous, si difficile à dépouiller. Et la question se pose, cet éveil de peuple implique-t-il un recul de notre civilisation, ou tout au moins de nos positions? Ce recul n'est-il pas encore plus menaçant pour nous dans cette chère Afrique du Nord, où nous savons bien que nous n'étions pas seulement des colonisateurs? En un mot, dans cette vaste péripétie humaine à la mesure du monde, quelle responsabilité fixée à notre pays, à notre science, à nous-mêmes? Sans doute l'histoire, qui repousse absolument les mécanismes simplistes, ignore les dilemmes, méprise les recettes. À beaucoup d'égards, nos choix sont sentiments plus que raison. Pour le chercheur, la sélection n'en est que plus difficile. À lui d'en décider. Si son initiative de citoyen déborde de toutes parts sa réserve méthodologique, ce sera son affaire à lui. Une grande affaire. Ne nous occupons pas trop. Mais dans sa recherche même, il est fatal qu'affrontant de pareils sujets, vitaux pour la France, les pays arabes et la civilisation entière, il rencontre la politique. Il ne doit ni souhaiter, ni fuir ces rencontres. Seulement, ses attitudes doivent distinguer la part de l'option personnelle et la part de l'adhésion scientifique. Seul vous intéresse maintenant ce que je pense à ce second titre. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, je pense que l'alliance de la France et du monde arabe est vieille. Assez vieille pour ne pas disparaître de sitôt, d'un seul coup, au vent de l'histoire présente. Quand les Mongols assaillaient Bagdad, que de fois nos croisés, par une salutaire folie, négligèrent les avances de cet allié naturel et contre lui soutinrent le partenaire musulman. Au XVIe siècle, notre pacte avec le grand seigneur nous sauve de la coalition, mais le sauve lui aussi. Au XIXe siècle, des aventuriers français en Égypte auront suscité le premier essor moderne d'une nation arabe. En 1940, nous éprouvions chez les Nord-Africains une fidélité dans les mauvais jours et cette qualité de regard que je ne puis oublier. Ce n'est point là un acquis négligeable et qui ne doivent survivre aux crises, même difficiles, même sanglantes. Bien des fautes sont à reprocher aux uns comme aux autres. Pour ne parler que de nous-mêmes, il est certain que nous valons beaucoup plus par ce que nous sommes que par ce que nous faisons. Et que, dans ces pays, notre apport le plus durable n'a pas été, et n'est pas le plus souvent, celui que nous avions concerté. Fort heureusement pour elle, notre présence déborde la part que lui assigne de prétendu réaliste. Voyez notre langue, notre culture. Elles sont aujourd'hui combattues ou soutenues en Orient à la fois parce qu'elles étaient celles de la bourgeoisie et parce qu'elles sont celles de l'intelligentsia. Langue de la gauche et de l'éducation missionnaire, maîtresse d'élégance mondaine autant que de mauvais esprit, véhicule à la fois d'un humanisme aux valeurs reconnues et d'une inquiétude qui le remet en cause, le français et son message ont encore dans ces pays un avenir que l'inimitié des adversaires permet seule de mesurer. Adversaires dont peu sont arabes, car le français, j'ose le déclarer même aujourd'hui, reste l'hellénisme des peuples arabes. Ce que je dis de cette position morale, je pourrais le dire de beaucoup de positions temporelles. Au Maghreb comme en Orient, dans le concret comme dans le spirituel, la caution du passé et l'observation du présent nous assurent de nos possibilités et de notre droit. Possibilité de construire l'inévitable, ce qui est un autre nom de l'initiative politique. Droit, mieux encore, devoir de contribuer à de jeunes libertés, ne fût-ce que pour mieux ménager en elles notre place. Proclamer l'avenir de la chose franco-arabe au moment où beaucoup, parmi les autres et parmi nous, le déchirent, l'audace semble paradoxale. Je soutiendrai ce paradoxe. Ce n'est pas nous payer de mots que de vouloir que règne, entre l'orientalisme français et l'Orient arabe, un rapport d'échange, propre à vivifier la science. Ce double aspect des choses, don et contre-don, service rendu et reçu, je l'ai reconnu, proclamé à chaque pas de l'analyse. Tout en celle-ci postule une réciprocité, une solidarité auquel j'espère ne pas faillir. Mais si nouvelle que se veuille ma tâche, elle ne fait que prolonger celle de mes aînés. Province d'études ou champ de réalisation, ces pays ont été, sont encore pour nous le lieu de notre orgueil et de nos larmes. Dans l'action comme dans la connaissance, l'œuvre française y porte un long héritage d'affirmation humaine. Puisse-t-elle longtemps le soutenir ?
C'était la leçon inaugurale de Jacques Berck, titulaire de la chaire d'histoire sociale de l'islam contemporain entre 1956 et 1981. Lecture de Léon Bonafé. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Réalisation Diffie Mariani, coordination Meryl Moneghetti. Samedi prochain, Jean-François Champollion. Belle journée à l'écoute de France Culture.